On se retrouve dans Punchline avec Isabelle Saporta, Françoise Laborde, Maxime Liédo et Prisca Thévenot de La République En Marche. Allez, un petit mot de politique quand même, évidemment, avec ce rapprochement, est-ce que c'en est un, entre Marine Le Pen et Éric Zemmour. On est avec Victor Chabert, bonsoir Victor. Visiblement, l'ex-patronne du Rassemblement National souhaite vouloir calmer le jeu.
Oui, Laurence, après les attaques de l'état-major du Rassemblement National contre Éric Zemmour, Marine Le Pen cherche désormais l'apaisement et ce matin sur RTL, elle appelait au rassemblement.
Bon, je connais Éric et je pense que encore une fois, pour une partie qui est une partie importante, qui est l'immigration et l'insécurité, nous faisons le même constat. Donc nous serons amenés à un moment donné ou à un autre à faire le rassemblement, parce que quand on aime la France, on se doit d'agir et d'œuvrer pour le rassemblement.
Le polémiste, invité de CNews quelques minutes plus tard, lui a répondu.
Vous savez, c'est tout ça, c'est des tactiques politiques. Moi, je ne suis pas dans la tactique politique. Un coup, on m'attaque. Un coup, on m'aime. Un coup, on dit il est odieux. Le lendemain, on dit il faut se rassembler. Moi, je ne suis pas dans ces changements permanents de pied. Moi, je suis ma route.
Dans les sondages, Éric Zemmour et Marine Le Pen sont désormais dans un mouchoir de poche. 14% pour le polémiste, 16% pour la candidate du Rassemblement National. Difficile pour elle, après une chute de plus de 10 points en quelques mois, de trouver la bonne tactique face à l'émergence inattendue d'une candidature sur sa droite.
Françoise Laborde.
Mais, franchement, moi je ne comprends pas pourquoi elle fait ça maintenant. Enfin, c'est quand même se tirer une balle dans le pied. Ça ne marchera pas. Enfin, il n'y aura jamais le rassemblement.
Elle a plus de pied, de toute façon.
Oui, enfin, celui qui lui reste éventuellement. Non, mais il n'y aura pas de rassemblement parce qu'il faut qu'il y en ait un des deux qui disparaisse. Zemmour ne va pas s'effacer devant Marine Le Pen. Et là, elle fait directement un aveu d'impuissance en disant on va peut-être se rapprocher. Ben, non, ça n'existe pas. Donc, je ne comprends pas la tactique, là, vraiment.
Maxime Liédo.
C'est le meilleur moyen d'encourager ceux qui hésitaient entre Zemmour et elle à se précipiter chez Éric Zemmour. Dans Le Point, il y a un sondage fascinant qui explique que 50% des sympathisants LR veulent partir chez Zemmour et que 54% du RN aimeraient également partir chez Zemmour. Donc dans ce cas-là, il y a 54% qui sont déjà en train de faire leur valise. Donc ça, c'est un premier sujet. Et ensuite, ça traduit quand même un peu le malaise Zemmour au sein des politiques. LR, on n'en parle même pas. Maintenant qu'il y a Édouard Philippe, on se demande quel est l'intérêt d'LR, surtout quand on a des cadres qui disent largement préférer Zemmour à Emmanuel Macron en cas de second tour avec cette configuration. Et ensuite, en termes d'idées, je veux dire, il y avait encore quelques éléments qui pouvaient, séparer Marine Le Pen d'Éric Zemmour. Et aujourd'hui, on sait que sa base électorale, c'est en quelque sorte la France rurale, la France ouvrière. Et elle préfère s'écharper avec un polémiste qui n'est pas encore candidat sur l'identité, sur l'immigration, alors qu'il y a toute une frange actuellement de la population qui est en train de crever parce qu'il y a des taxes sur l'essence qui leur empêchent, qui leur empêchent de faire un plein. Ils n'ont pas de quoi se loger, ils n'ont pas de quoi se nourrir suffisamment. Ils ont du mal à aller au travail. On leur donne un chèque énergie, mais on ne sait pas si ça va les aider à finir le mois. Il y a une France qui est en train de se désindustrialiser au point qu'Emmanuel Macron dise que c'est important, c'est pour vous dire l'importance du sujet. Donc vous voyez, il y a une frange de la population qui souffre, qui n'en a pas tout de suite quelque chose à faire de l'identité française, mais on ne leur parle jamais.
Isabelle Saporta.
Non, mais moi je trouve ça, c'est vraiment un acte, vous avez raison Madame Laborde, c'est vraiment un acte de désespoir de la part de Marine Le Pen. Donc moi je dois dire que moi non plus, je ne comprends pas pourquoi elle le fait, je ne comprends pas comment elle peut penser, après avoir perdu autant de points, que de tendre la main à Zemmour qui lui est sur une phase ascendante, ça va marcher. On voit bien que lui effectivement va rester entre guillemets droit dans ses bottes. Moi je suis... plus nuancée que vous Maxime sur la question des classes populaires. Je pense... en fait, que Éric Zemmour, dont on pensait qu'il ne s'adresserait au fond que et il n'arriverait à plaire qu'à des CSP+, etc., etc., plaît énormément aux classes populaires.
Aussi.
Voilà. Parce que, et là, c'est quand même quelque chose qu'ont oublié toute une partie de nos politiques, c'est que les classes populaires, comme tout le monde, aiment qu'on leur parle bien, qu'on utilise des mots dont ils sont fiers, qu'on fasse référence à l'histoire et qu'on fasse référence à une certaine identité. Et au fond, comme Jaurès, relisons les discours de Jaurès qui étaient incroyables, on a aujourd'hui Mitterrand, on a aujourd'hui un narratif extrêmement fort que je ne partage pas comme vous vous en doutez, de la part d'Éric Zemmour. Et en face, il n'y a pas de narratif aussi fort. Il n'y en a pas à La République En Marche, parce que de toute façon, on est dans quelque chose effectivement qui est un peu de l'ordre de la pop culture. Il devrait y en avoir, et là on va m'accuser effectivement d'être dans un, de défendre mon compagnon Yannick Jadot, mais effectivement chez les écologistes, parce que là, c'est effectivement la fin de... On est dans une période où, au fond, si on ne se saisit pas de l'urgence climatique, c'est la fin effectivement de la planète. Et aujourd'hui, pour moi, les deux seuls narratifs qui s'opposent, c'est effectivement le narratif écologique et de l'autre côté, ce narratif régressif, nostalgique, d'extrême droite, qu'incarne avec beaucoup de talent
Éric
Zemmour.
Alors, Prisca Thévenot.
Alors, moi, je vais être
le parti pop culture.
Non, mais oui, bon, si vous voulez.
Mais tout ça ne fait pas les affaires d'Emmanuel Macron, au fond, cette division entre Le Pen et Zemmour.
Ben, en tout cas, elle ne fait pas l'affaire du débat politique, je ne trouve pas. Parce qu'effectivement, comme vous le dites, entre ces deux narratifs qui existent, d'un côté les extrêmes et puis de l'autre côté, effectivement, très raccourci, le mouvement écologiste, et ben, effectivement, au milieu, il n'y a pas de narratif. Il y a des actes, il y a des actions. Effectivement, il y a de grands défis à relever, il y avait de grands challenges à relever. Je ne dis pas que tout a été fait, mais une bonne partie a été prise en compte et a été menée. Sur le sujet du pouvoir d'achat, on va être très clair. Sur les premières années du quinquennat, 5,8% de pouvoir d'achat en plus. Sur la partie de la crise sanitaire, effectivement, pas autant, mais ça continue à augmenter. Là, vous allez me dire, oui, mais ça n'a pas concerné les classes populaires. Eh bien, si, les études montrent, vous aimez bien citer les études montrent que 10% des classes populaires ont bénéficié le plus de ces hausses de pouvoir d'achat. Et là, vous allez me dire encore à nouveau, oui, mais on a aujourd'hui le problème de l'énergie. Vous avez raison, on a un sujet de l'énergie. Et c'est d'autant plus important d'aujourd'hui travailler cette indépendance énergétique dont le président a commencé à travailler via le plan France Relance et qui continue à travailler avec les annonces qui ont été faites mardi. Donc moi ce que je veux c'est, on peut continuer à se raconter de belles histoires, mais c'est ignorer la situation dans laquelle est le pays aujourd'hui. Il faut des actes aujourd'hui.
Il avait dit une seule chose sur l'écologie, Macron, c'était qu'il allait interdire le glyphosate, c'est toujours pas fait. Donc si on prend les actes de Macron, par exemple, sur l'écologie...
Parlons de la chasse. Grâce à qui est-ce qu'on mange tous les jours ?
Il est dans une optique totalement régressive.
On mange grâce aux agriculteurs. Et donc il faut leur permettre de...
Vous savez combien ils gagnent par mois, les agriculteurs ?
Ben voilà. Et donc vous voulez tout de suite faire un gros cataclysme pour les agriculteurs.
Ne dites pas que l'agriculture productiviste fait bien vivre les agriculteurs.
Et donc, il faut leur permettre...
On est parti de Zemmour, on est à l'agriculteur. On a fait un petit peu de chemin.
Parce que soi-disant, que les faits et les actes seraient du côté de Macron, si vous êtes tellement tranquille là-dessus, je ne vois pas pourquoi vous êtes autant sur la défensive.
Il ne s'agit pas d'être tranquille, il s'agit d'expliquer et d'être sur des faits.
Effectivement, Bruno Le Maire, vous avez raison. Bruno Le Maire, ministre de droite, a été irréprochable pendant le Covid et a arrosé les entreprises françaises comme il fallait les arroser. Vous avez parfaitement raison, vos ministres de droite se sont bien comportés.
Donc on aurait dû les laisser... Un petit mot et après on parle des LR.
Juste pour rappeler, je ne vais pas rentrer dans les débats programmatiques de mes deux voisines, je pense que la préoccupation majeure aujourd'hui, c'est en effet la hausse de l'énergie, l'essence, le pétrole, le gaz, etc., etc. Et c'est vrai que c'est quelqu'un a utilisé cette image, c'est comme la météo ressentie est réelle. C'est-à-dire que même si en effet une petite progression du pouvoir d'achat, on a quand même l'impression que ça baisse parce qu'on voit passer les factures qui augmentent. Donc la météo ressentie, c'est que ça monte et qu'il va faire froid et qu'on va payer de plus en plus cher. Et ça pèse beaucoup dans l'opinion publique, ça pèse beaucoup dans les préoccupations des Français. Et il y a quand même l'idée de, oui, mais est-ce qu'on n'aurait pas pu anticiper un peu cette problématique en faisant davantage de stocks, en négociant, je ne sais pas, les prix du gaz un peu mieux avec les Russes, pourquoi pas. Bref, on anticipe un certain nombre de choses.
Ça ne marche pas comme ça, en fait.
Mais ce que je veux dire, c'est que... Ou les stocks, tout simplement. Mais on sait faire. Mais ça, c'est une question qui va être au cœur de la campagne, me semble-t-il, et qu'on a tendance un peu à oublier, parce que la question du pouvoir d'achat et la question, en effet, des prix des matières premières du quotidien, c'est ça qui a fait émerger quand même les gilets jaunes. Et c'est pas si loin.
Pas loin. Un tout petit mot, Maxime Nilou. Juste sur les LR, Valérie Pécresse va reprendre sa carte aux Républicains. Elle avait quitté le parti en 2018, Xavier Bertrand en 2017. Xavier Bertrand ne reprendra pas sa carte. Waouh.
ma malaise supplémentaire chez les Républicains, parce qu'on a quand même les deux personnes qui sont en train de soi-disant se présenter pour le parti, n'ont plus leur carte au parti. Donc là, c'est un sujet, surtout que Xavier Bertrand a dit ne pas la vouloir. Donc en fait, le seul homme qui est actuellement en train d'émerger, notamment chez les militants, or ça tombe bien, c'est un tout petit peu qui vote, c'est Michel Barnier, qui est jugé accessoirement comme l'homme le plus sincère en interne. Donc ça vous laisse envisager la campagne qui va se faire jusqu'en décembre.
Voilà, écoutez, merci pour ce mot de la fin. Peut-être encore un petit mot, j'ai encore une petite minute finalement.
Je trouve que Michel Barnier était incroyable quand il s'est occupé du Brexit, etc. Je suis complètement effondrée de l'entendre aujourd'hui avoir des discours sur l'immigration qui me paraissent complètement délirants. Mais c'est surtout que si c'est lui à 8%, enfin, on ne voit pas ce qui va rester des LR après, pardon, quoi. Enfin, donc ils iront vers Horizons, comme vous dites, Horizon pluriel de Monsieur Philippe, et vers Zemmour, quoi, parce que, enfin, il y aura plus de LR. Mais s'ils ont envie de mourir, écoutez, en même temps, c'est un choix. Hein. Bon.